Ça y est, mes chers amis de Radio Présence, ça y est, le roi Saül est destitué. Et le Seigneur va se chercher un autre roi. Quel mystère, encore une fois, c'est pourtant Dieu qui avait choisi Saül. Et ce qui montre d'une certaine manière combien Dieu, tout en sachant à l'avance ce qui va se passer, nous fait confiance et nous laisse aller dans notre liberté et nous respecte dans notre liberté et dans nos choix. Dieu regarde le cœur, disons-nous en terminant l'autre fois, et celui de David, qui est un homme droit malgré sa faiblesse, donc a été vraiment admiré par le Seigneur. Quand le rédacteur des livres des rois voudra stigmatiser la conduite de l'un d'entre eux dans l'histoire des rois d'Israël, le refrain sera le suivant. Son cœur ne fut pas tout entier au Seigneur son Dieu, comme le cœur de son ancêtre David. Dieu est moins attentif à nos faiblesses passagères, même graves, qu'à la direction habituelle de notre cœur. Il regarde surtout l'orientation foncière de notre vie. Et mon maître des novices, quand j'étais jeune moine, disait évidemment, dans nos vies, on montre rarement de manière régulière et parfaite. Il y a des hauts et des bas, un peu comme un encéphalogramme ou un cardiogramme. Ça bat dans tous les sens. L'essentiel, c'est que l'ensemble de la ligne soit plutôt montante. Il peut y avoir des grosses chutes, mais on reprend la route et on continue d'avancer, on continue de progresser malgré nos faiblesses ou nos chutes. Donc Dieu regarde l'orientation foncière de notre vie. Dans un examen de conscience, la question fondamentale que nous devons nous poser est celle-ci. Ma vie s'ordonne-t-elle vraiment en direction du bien ? Du bien concret, du bien, mon bien à moi, mais le bien des autres. En direction du Dieu vivant, ou bien ne suis-je pas l'esclave d'une idole qui peut n'être que moi-même ? Et ce faisant, je me défigure. Ce n'est pas le vrai moi-même que j'honore ou que je fais grandir. Comme tous les faibles, Saül ne se rend pas à la déclaration nette que vient de lui faire, pour sa destitution, le prophète Samuel. Donc il ne se rend pas à cela. Ta royauté te sera arrachée, lui est-il dit de manière extrêmement explicite, et comme tu viens de déchirer le pan de mon manteau, elle te sera arrachée. Il s'accroche encore et supplie misérablement, j'ai péché, cependant je t'en prie, honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël, et reviens avec moi pour que j'adore le Seigneur ton Dieu. À nouveau, il reconnaît sa faute, certes, mais il insiste pour que le peuple ne se rende pas compte de sa déchéance. Et Samuel finit par céder et par se rendre avec le roi déchu à une cérémonie publique où tout se passe comme si de rien n'était. Sans doute, la demande de pardon formulée par Saül a-t-elle des côtés sincères ? Et malgré son relent intéressé. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Saül n'est pas détrôné publiquement. Il mourra roi sur les coteaux ou les monts de Gelboé dans une défaite. Et bien que David ait reçu l'onction royale très vite après les fautes de Saül, son intronisation solennelle devra attendre la mort de Saül. Et nous l'entendions récemment encore dans les lectures, frères et sœurs, que nous avons à la messe ces temps-ci, où on dit que David a d'abord été pendant 7 ans ou quelque chose comme ça, roi à Hébron, et qu'il a été ensuite roi pour tout le peuple d'Israël, une quarantaine d'années, ça fera une quarantaine d'années en tout. Son intronisation solennelle devra attendre la mort de Saül. Cette coexistence des deux rois en Israël sera bien difficile pour l'un et pour l'autre. Mais maintenant que disparaît progressivement, que disparaîtra peu à peu le personnage de Saül, il faut que nous regardions de plus près quel est ce David. ce voisin meilleur que Saül, qui va devenir roi à sa place, selon le choix de Dieu et selon la droiture de cet homme qui est admiré et aimé, en tout cas par Dieu. Tous ces événements sont lourds pour le cœur de Samuel. Il pleure Saül comme en pleure un mort. Il faut que Dieu le relève de cette dépression. Jusque à quand resteras-tu à pleurer Saül, alors que moi je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël? Emplis ta corne d'huile, l'huile donc son royal, et va. Je t'envoie chez Jessé, le bethléémite, celui qui habite Bethléem, car je me suis choisi un roi parmi ses fils. On mesure la force d'âme qu'il fallut à Samuel pour exécuter l'ordre du Seigneur. L'échec de sa première onction royale ne lui donnait guère d'enthousiasme à la perspective de voir renouveler le rite sacré, sans compter la jalousie de Saül que ce geste ne saurait manquer de provoquer, comme plus tard l'avènement de Jésus mettra Hérode dans une fureur homicide. Samuel pourtant a tort de s'inquiéter. L'homme chez qui il est envoyé n'est pas seulement un homme de condition, à la manière de Kish, le père de Saül. Le Seigneur lui donne l'adresse d'un certain Jessé, dont l'ascendance offre à elle seule des garanties exceptionnelles. Et c'est là que nous allons commencer de regarder les racines de l'arbre de Jessé. Le petit livre de Ruth, R-U-T-H, découvre les racines de cet arbre de Jessé, cet arbre qui monte de Jessé à David pour s'épanouir dans la Vierge Marie et trouver dans le Christ Jésus son fruit parfait. Et nous allons revenir sur cet arbre de Jessé qui orne nos églises, nos vitraux et nos peintures et les sculptures. Et ceci, nous allons le regarder plus en détail, chers frères et sœurs. À bientôt.